Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va se lever debout. On va continuer ce soir la série qu'on a commencée. Fait qu'on va demander vraiment à Dieu de nous éclairer tous. Amen. Et puis de vraiment sortir les choses qu'il veut que vraiment je mette l'emphase dessus pour chacun de vous. On ne veut pas induire personne en erreur, mais on veut vraiment que ça fasse l'impact que ça doit faire. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je te glorifie, Seigneur, parce que c'est toi qui produis même en moi le vouloir et le faire, Seigneur. Et Père éternel, merci de me donner la révélation des choses, Seigneur, que j'ai entendues, que j'ai reçues moi-même, Seigneur, que j'ai appliquées dans ma vie. Et Père éternel, que ce soit des paroles vraiment encourageantes au nom de Jésus, que chaque personne qui est venue ici ce soir, Seigneur, peu importe la condition dans laquelle ils sont arrivés, Seigneur, je te demande au nom de Jésus que lorsqu'ils s'en retourneront, ils s'en retourneront encouragés, édifiés, consolés, Seigneur. Et Père éternel, merci de venir au secours de chacune de nos faiblesses, Seigneur, et de nous amener à être tout ce qu'on peut être, de nous changer de gloire en gloire, Seigneur, de prendre soin de nous édifier au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Mais comme j'ai dit, on a commencé deux semaines passées à parler à propos de endurcir le cœur. Et puis vraiment, on a pris notre texte dans Hébreux 3. Et puis, je vais juste relire un peu quelques instances de Hébreux 3 parce que c'est notre fondation. Et puis ici, ça parle des Israélites. Et c'est sûrement là-dessus qu'on va parler plus la semaine prochaine, puis terminer probablement aussi la semaine prochaine sur ce sujet-là. Mais la parole de Dieu nous parle ici de les Israélites quand Dieu les a fait sortir d'Égypte avec la puissance que Moïse avait sur lui. Amen. Et la parole de Dieu nous dit au verset 7, « C'est pourquoi ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Amen. Alors Dieu dit, « Endurcissez pas vos cœurs comme les autres y ont fait. » Au verset 12, ça dit, « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors, on sait très bien qu'il y a une façon qu'on a parlé au début, que les gens, des fois, peuvent endurcir leur cœur, c'est par le péché. Le péché qui vient dans ta vie, puis là, tu endurcis ton cœur, et puis autrement dit, c'est l'orgueil aussi qui se met là-dedans. Après ça, ça continue au verset 15. « Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Amen. Et après ça, au chapitre 4, verset 7, ça dit « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. » Parce qu'on disait qu'à chaque jour, c'est aujourd'hui. Amen. « En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alors, on avait démontré dans les semaines passées que dans presque une vingtaine de versets, quatre fois, ça nous est dit de ne pas endurcir notre cœur. Et selon la parole de Dieu, quelqu'un qui endurcit son cœur va... On a lu plusieurs écritures dans les semaines passées qu'une personne qui endurcirait vraiment son cœur, on parle ici surtout de chrétiens, amen, de chrétiens qui endurciraient leur cœur. Parce qu'on sait très bien que dans le monde, des fois, il y en a qui vont dire, il a la tête dure, il ne veut rien comprendre. Mais ça, c'est parce que longtemps, il s'est fait prêcher. Je parle des gens qui ont entendu la parole de Dieu beaucoup ou des gens qui connaissent le Seigneur. On parle de nous, là, endurcir notre cœur. Amen. Mais on sait très bien que les gens dans le monde, ils sont séduits par le péché et aveuglés par le prince de ce monde. Ce n'est pas directement de eux qu'on parle lorsqu'on parle d'endurcir les cœurs. Amen. On parle pour nous ce soir, pour nous autres. Faire attention. Amen. Alors, on a vu que quelqu'un qui redit le coup, ça va être dur de revenir. C'est comme la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 29, c'est comme s'il n'y aurait pas de remède. Amen. Vous vous souvenez de ces écritures-là. Quelqu'un qui redit toujours le coup à toutes les fois que t'arrives pour, Dieu arrive pour le corriger ou pour l'instruire, puis la personne a redit le coup, autrement dit, elle est orgueilleuse, mais la personne a redit le coup à résiste à Dieu, eh bien, la parole de Dieu dit qu'il va résister lui-même aux orgueilleux. Amen. Mais lorsqu'on parle d'endurcir les cœurs, on parle qu'on se prive premièrement, d'une grande délivrance, puis on risque que le malheur arrive grandiosement pour quelqu'un qui endurcirait son cœur. On a parlé la semaine passée de Barnabas, qui était souvent avec l'apôtre Paul, et comment il y avait eu une friction qui s'était faite avec Jean-Marc, Marc, et que l'apôtre Paul avait dit, il nous a poursuivis depuis le départ. Et puis moi, je crois qu'il ne devrait pas nous suivre maintenant qu'on retourne toutes visiter les églises. Et vous savez, une autre chose qui peut endurcir le cœur des gens, Pharaon, lui, c'était le péché. On en a parlé la première fois. Mais la semaine passée, on a démontré que l'offense est offensée. Et vous, combien de vous connaissez l'histoire ici de l'apôtre Paul, amen, quand il a dit non, Marc ne nous a pas suivis depuis le commencement, alors moi je suis d'avis qu'on ne l'amène pas avec nous lorsqu'on va aller visiter toutes les autres églises. Alors Barnabas, il est parti avec Marc sur son bord et Paul, il est parti avec Silas. Mais si vous lisez les autres chapitres qui suivent, vous allez voir que tout de suite, le chapitre après, ça nous dit que l'apôtre Paul, il s'en allait prêcher, et puis à un moment donné, il a été mis en prison avec Silas, ils ont été fouettés, et puis vous savez, Dieu des fois, pas des fois, Dieu sait ce qui va arriver. L'apôtre Paul, il a eu le sentiment de ne pas emmener Marc avec eux, parce que l'apôtre Paul, lui, il marche guidé par l'Esprit. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est lui-même qui dit, « Lié par l'Esprit, je ne fais pas aucun cas de ma vie. S'il faut que je monte là-bas, même s'il y a des liens qui m'attendent, ça ne me dérange pas. » L'apôtre Paul, c'est un homme qui marche guidé par l'Esprit de Dieu. Lui, il a eu à cœur de ne pas emmener Marc avec lui, parce qu'il dit, « Il ne nous a pas suivis depuis le début. » Vous savez, des fois, on va avoir comme une raison. Même si on ne comprend pas tout le contexte, puis on ne sait pas d'avance qu'est-ce que Dieu, lui, vouait au travers de cela. L'apôtre Paul, la raison qu'il avait, lui, c'est il ne nous a pas suivis depuis le début, alors je ne verrais pas pourquoi il nous suivrait là et maintenant qu'on a affaire à aller exhorter toutes les églises. Mais vous savez que ce n'est pas longtemps après que l'apôtre Paul, il s'est fait lapider, après ça, ils ont parti, puis tout ça. Dieu, lui, le sait que peut-être Marc, il n'aurait pas passé au travers. Comprenez-vous ce que je veux dire? Peut-être que Marc, il n'aurait pas été comme Silas, puis chanté des louanges après s'être fait fouetter puis être en prison. Peut-être que Marc, lui, ça aurait été trop pour lui, puis il n'aurait pas été capable de passer au travers. Mais Dieu savait ce qui s'en venait. Fait que Dieu il a mis dans le cœur de Paul, amène pas Marc, il vous a pas suivi depuis le début. Dieu, il est pas obligé, justement, dimanche soir, je vais parler de la guidance de l'Esprit, mais Dieu, il est pas obligé, des fois, de tout nous montrer le pourquoi il a pris la décision qu'on devrait faire ci ou ça. Amen. Moi, je me souviens, Pasteur Brian, il avait expliqué à un moment donné que sa mère, quand elle disait « Non, vous n'irez pas là, puis vous restez dans la maison en soir », on ne demandait pas pourquoi. Mais elle avait dit « C'était ça, puis elle doit avoir des bonnes raisons. » Aujourd'hui, au lieu de discipliner les enfants, le monde enseigne les enfants. Ah bien, il faut lui faire comprendre que, puis là, je vais lui faire comprendre telle et telle chose. Puis quand il va avoir compris, non. On discipline quand c'est le temps de discipliner, puis on enseigne quand quelqu'un a des oreilles pour entendre. Amen. Mais voyez-vous, Dieu il a pas dit à l'apôtre Paul, tu vas voir dans le chapitre après là, qui s'en vient, là, tu vas aller en prison avec Silas, et puis Marc ne sera pas capable de passer au travers. Explique-y comme il faut. Dieu, il s'attend que quand une personne supérieure à toi, qui est supposée de être guidée du Saint-Esprit, arrive avec une décision, même si ça ne fait pas ton affaire, il ne faut pas que tu t'offenses. Si tu t'offenses, tu endurcis ton cœur. Mais la bonne nouvelle avec Marc, qui l'a empêché d'être offensé, c'est que Barnabas, il a parti avec. Puis la semaine passée, vous écouterez l'enseignement, je vous ai tout démontré quel genre d'homme était Barnabas. C'est un homme plein du Saint-Esprit, bon, c'est un homme qui était habitué d'obéir à Dieu, c'est un homme qui avait pris soin de l'apôtre Paul, ça a été le premier à prendre soin de l'apôtre Paul après sa conversion. Fait que Marc, il était en bonne main. Mais plus tard, par exemple, beaucoup plus tard, l'apôtre Paul lui a dit, dans une de ses lettres, « Vous direz à Marc de venir parce que je crois qu'il m'est utile pour le ministère. » Et la raison qu'il pouvait faire appel à Marc, c'est parce que Marc s'était laissé corriger, il n'avait pas endurci son cœur, il avait continué à grandir pour le Seigneur, puis maintenant il était rendu à la place qu'il pouvait épauler l'apôtre Paul. Amen. Alors vraiment, l'offense, c'est une chose qui peut faire qu'on endurcit notre cœur. Amen. Puis bien des fois, on ne sait pas ce qui va arriver. Et puis, même avec nos enfants, des fois, on va dire, c'est drôle, moi, je n'ai pas à cœur que tu fasses ça, puis tu fasses telle, telle chose. Puis des fois, on ne sait pas tous les pourquoi, mais Dieu le sait. Puis il faut apprendre à se soumettre. Ça, c'est la chose la plus difficile. La parole de Dieu dit, bien, je parlais justement à quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit, avez-vous remarqué que quand la parole de Dieu dit « Ne vous enivre pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit en vous entretenant par des psaumes, des hymnes puis des cantiques spirituels. » Puis trois versets après, ça dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » J'ai dit « Avez-vous remarqué que Dieu, il s'attend qu'on va être rempli de l'Esprit puis comme ça, on va être capable de se soumettre. » Mais non, ce n'est pas facile de se soumettre. Mais même avant de dire « soumettez-vous à vos maris », c'est marqué « soumettez-vous les uns les autres ». C'est dur se soumettre parce que des fois, les gens arrivent avec quelque chose puis ça nous offense. Au moment où tu acceptes l'offense et puis tu mûris cette offense-là, tu risques d'endurcir ton cœur. Amen. Parce que la parole de Dieu dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La personne qui est humble, c'est la personne qui accepte d'être corrigée. Amen. 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 Gloire à Dieu. Trop de gens endurcissent le cœur à cause de blessures qui se sont faites. On n'est pas des masochistes. qui se sont fait faire. Parce que les gens vont dire des fois, ben là, c'est bien de valeur. Mais ça, je ne me le referai plus faire. Puis ils viennent de s'endurcir, ils viennent de mettre un mur, puis il n'y a plus de revenez-y. Puis bien des fois, Dieu voudrait les bénir, puis Dieu voudrait être capable de passer dans leur vie, puis Dieu n'est pas capable parce que la personne a endurci son cœur et puis elle a fait un mur. Amen. J'avais un exemple ici. Vous savez combien de vous savez qu'un pilote d'avion doit faire durant son vol d'avion beaucoup de corrections des fois durant le vol. À cause d'un moment donné, il arrive dans un corridor où ce que le vent est plus fort, puis là, il y a de la tempête, ou la température s'en mêle, puis il y a toutes sortes de choses. Puis des fois, l'avion va pogner un drop. Je veux juste vous encourager avant de partir la semaine prochaine. même des fois, le pilote doit faire une correction assez grande que tu viens d'avoir ton verre de café ou de liqueur, puis risque de se renverser. Et combien de vous savez que c'est beaucoup mieux d'accepter la correction puis pas chialer après notre verre de liqueur qui s'est renversé que d'avoir un pilote qui ne fera pas la correction puis tu vas t'écraser avec ton verre de liqueur? Amen! Amen. Oui, c'est peut-être choquant sur le coup. Tu dis, mon verre, j'ai tout sali mon pantalon, puis là, tu as envie de chialer. Mais combien de vous savez que le pilote, il est bien mieux de faire la correction qu'il doit faire, même si ça a fait des dégâts? Bien, dans nos vies personnelles, c'est la même chose. On part d'un point, puis on s'en va à un autre point. Et puis au travers de notre vie, pour se rendre aux choses que Dieu a pour nous, il y a bien des fois qu'il y a des vents puis des tempêtes, puis il y a des petites corrections à faire dans notre vie. Et puis des fois, c'est tough un peu, puis on est ébranlé par ça. Mais c'est beaucoup mieux de se laisser corriger que de risquer de piquer du nez. C'est la bonne chose. Amen. La foi, c'est un choix. Amen. Tu sais, moi, je ne peux pas arriver aux côtés de quelqu'un qui est malade et dire, « Là, t'es bien mieux de croire, OK, là! » Puis le brasser, le rendre plus malade qu'il était. Non, c'est le choix. Hein? La personne, elle a le choix de le croire ou pas le croire. Bien, la soumission, c'est la même chose. C'est un choix. Il y en a des gens qui vont dire, « Non, moi, il n'y en est pas question. » C'est non, non, non. Mon mari est peut-être la tête, mais c'est moi qui ai le cou. Puis elle va tourner où ce que je dis. Fait que, bah. Non, ça, c'est pas moi, là. Je donne un exemple. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y en a qui... Il y en a des gens que la correction, ils ne veulent pas. La foi, c'est un choix. Puis la correction, c'est un choix aussi. Amen. Là, on va parler d'un peu des apôtres. Et puis, comment des fois ils risquaient de manquer le meilleur. Puis, il va falloir que vous restiez accrochés à ce que je vais dire parce que ça a une évolution. OK? On va aller à Marc 6. Marc 6. Et puis, je vais commencer à lire au verset 47. Jésus vient juste de faire la multiplication des pains. Il a nourri ici, je pense, c'est 5000 personnes peut-être. Il y a un coup, c'est 4 000, puis un coup, c'est 5 000. Alors, au verset 47, ça dit, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. » Merci, Seigneur. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Voyez-vous, ils voient Jésus s'en venir sur la mer, puis là, ils crient parce qu'ils disent, c'est un fantôme, qu'est-ce qui se passe? Puis Jésus s'en allait pour les dépasser. Et puis ça, là, c'est un bon enseignement qui va avec ce que j'ai déjà enseigné à propos de prendre le temps de s'arrêter juste parce que Pierre voulait marcher sur l'eau. Amen. Dieu, il a toujours le temps pour nous autres. Parce que lui, il était pour les dépasser, puis arriver de l'autre bord, puis les attendre. Mais là, dans leur frayeur, ils ont poussé des cris, puis Jésus a dit, « Ayez pas peur, c'est moi. » Puis là, il s'est dirigé vers eux, et puis il a embarqué dans la barque. Puis il dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Autrement dit, la raison qu'ils sont si charnels dans la barque, c'est qu'ils commencent à avoir de la misère à croire au miracle. Ils n'ont même pas compris qu'est-ce qui s'est passé avec la multiplication des pains. Il dit, leur cœur s'est endurci. Il dit, parce que leur cœur était endurci. Ça peut arriver à un moment donné dans la vie chrétienne des gens que les gens, parce que peut-être n'ont pas vu des choses se passer, qui ont prié pour certaines choses ou quoi que ce soit, que les gens endurcissent leur cœur concernant les miracles. Puis ça, c'est une autre avenue qu'il faut faire attention. Puis Jésus est surpris de voir qu'ils crient comme ça, comme d'avoir peur comme ça. Il dit, leur cœur est endurci, ils n'ont même pas compris ce qui vient de se passer. Je vais le lire dans la Bible, la parole vivante, parce que des fois, ça l'explique, ça le dit d'une manière plus compréhensible. Ça dit, « Entre-temps, la nuit est venue. La barque est au milieu du lac. Jésus est resté seul à terre. Il voit que ses disciples avancent péniblement. Ils s'épuisent à ramer contre le vent. Alors il va les rejoindre. C'est le petit matin. Ils marchent sur la surface du lac. Arrivés à leur hauteur, ils semblent vouloir les dépasser. Mais ils le voient ainsi marcher sur l'eau. Ils croient que c'est un fantôme et se mettent à pousser des cris d'épouvante. En effet, tous l'ont aperçu et sont saisis de panique et se mettent à trembler. Mais aussitôt, il leur parle. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monte auprès d'eux dans la barque et tout d'un coup, le vent tombe. Les voilà encore plus bouleversés. Ils sont au comble de l'étonnement, car ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux. Leur cœur reste endurci. Ils n'ont même pas encore compris comment Jésus il peut faire, loin du Saint-Esprit, les miracles. Ils n'ont pas encore compris. Et ils n'ont pas compris encore. Il faut comprendre une chose. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir comment pieux on peut être. Ça n'a rien à voir comment beau ou moins beau on est. Ça n'a rien à voir si notre père il a payé ses dîmes toute sa vie. Tout a à voir avec est-ce qu'on est capable de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on est capable de reconnaître le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, démontrer c'est quoi le royaume de Dieu, démontrer c'est quoi le ciel, démontrer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on est capable de croire ça? Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit ici, « Car ils n'ont pas compris qui est Jésus. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux. » Vraiment, il y a des gens que j'ai déjà vus que Dieu les a touchés par un miracle. Puis après ça, ils viennent te voir et ils disent, « C'est sûr que Dieu il est là-dedans. » Moi, c'est quand qu'ils me disent ça. « C'est sûr que Dieu est là-dedans. » Mais par contre, le médecin que j'avais, là, il commence. Il me semble que lui, il en a des éloges. L'autre, il est juste là-dedans. Mais le médecin que j'avais, là, c'est un super de bon médecin, hein? Et puis, c'est un médecin qui a des opérations, il en a fait. Puis, en tout cas, lui, il est coté haut, puis il n'en a pas manqué beaucoup. Combien de vous avez déjà entendu le langage que je suis en train de dire? Il n'en a pas manqué beaucoup. Puis vraiment, l'opération qu'il a faite, il me l'a dit, ça a été un petit peu plus long. Puis toute la gloire revient au médecin. Mais Jésus est là-dedans. Oui, oui, je le sais. Oui, oui, Jésus est là-dedans. Je le sais, vous avez prié. Ils ne sont pas capables de reconnaître qui est Jésus. Si on demanderait à quelqu'un, c'est qui Jésus? Ou bien non, des fois, si quelqu'un me demande, pour qui tu penses que tu te prends? As-tu 5 minutes? Je suis une héritière, co-héritière avec Christ. Je suis un enfant de Dieu, lavé, sanctifié, purifié. Je suis un ambassadeur pour Christ. Je peux... Aïe! On va te défiler ça, moi. Je suis un royal sacerdoce. Amen! Hey boy, hein? Mais bien des fois, les gens ne reconnaissent pas assez Jésus. Puis quand tu ne le reconnais pas assez... Après ça, tu as besoin des choses dans ta vie, puis ton cœur, il s'est habitué à rester un petit peu dur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il dit, c'est dommage, parce que le cœur s'est endurci. On va aller maintenant à Marc 8, juste quelques chapitres plus loin, et puis je vais lire à partir du verset 8. Marc 8. Marc 8, verset 14. Encore une fois, il y a eu la multiplication des pains. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Autrement dit, Jésus vient de faire encore une fois une multiplication des pains. Puis là, ils sont pressés d'embarquer dans la barque, puis ils ont oublié d'en prendre. Probablement qu'il y en a assez mangé qui était full. Quand tu es full, ça ne te tente pas. Des fois, quelqu'un veut dire, veux-tu apporter le reste? Oh non! Bon, OK. Au verset 15, Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens puis du levain d'Hérode. Et là, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce qu'on n'a pas pris de pain. Ah, ils sont charnels, c'est incroyable. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Puis ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas, des oreilles, vous n'entendez pas, vous n'avez point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers, de pleins, de morceaux avez-vous remporté? 12, lui répondirent-ils. Puis quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous remporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Autrement dit, Jésus faisait juste leur parler de la méchanceté. Le levain des pharisiens, c'est la méchanceté des pharisiens puis de la méchanceté d'Hérode. Mais il a employé le mot levain. Qu'est-ce qui fait lever la pâte? Amen. Ou maintenant, des fois, qu'est-ce qui nous fait lever nos gonds quand quelqu'un nous énerve? Amen. Bon, bien, ça, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait lever la pâte, le levain? Alors, Jésus le dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Ils ont dit, aïe, parce qu'on n'a pas apporté de pain. Ils sont assez charnels qui pensent charnellement, on aurait dû apporter plus de pain. Je pense qu'ils voulaient plus de pain. Hey, si Jésus veut plus de pain, tu as juste à regarder ce qu'il vient de faire. Tu en as un pain, tu en as masse. Jésus peut le multiplier 150 fois dans la barque, puis tout le monde va avoir son petit pain. OK? Jésus dit, pourquoi vous raisonnez à propos que vous avez apporté un pain? Que vous n'ayez apporté 1 ou 10 si on a faim, vous ne venez pas de voir ce que je viens de faire? Il dit, avez-vous le cœur endurci au point que vous voyez, que qu'est-ce qui se passe, vous ne le voyez pas? Qu'est-ce qui se passe, vous ne l'entendez pas? Êtes-vous rendu le cœur si endurci que ça? Je vous parle des apôtres, là. Les apôtres endurcissaient leur cœur. Et quand tu endurcis ton cœur comme ça, à t'habituer à ne pas voir Jésus, tu vas manquer des grands miracles. Tu vas manquer des grands miracles. Mais quand tu t'habitues toujours à voir Jésus, merci Seigneur pour le beau parking qu'on a eu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hey, ça a-tu bien été un peu? Hey, ça a été mieux qu'on pensait. Merci Seigneur. On dirait que tu vois Jésus partout. Bien, tu t'attends que Jésus va être partout. Puis tu es assez habitué de le voir faire des choses que quand il fait les choses, tu es voué. Puis quand les autres arrivent et disent, as-tu vu ce que le Seigneur y a fait? Tu l'entends parce que ton cœur n'est pas endurci. Mais ça veut dire que nous autres, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas venir comme les apôtres? Puis Jésus les reprend à chaque fois. Il dit, coudon, votre cœur, il est-tu après s'endurcir? On va aller à Marc 10. Et je vais commencer à lire au verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce puis de répudier sa femme. Pas la femme répudier l'homme, là. Juste l'homme répudier la femme. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a oint. » Autrement dit, ce qu'il leur dit ici, les pharisiens y arrivent, puis ils disent, « C'est-tu correct que Moïse il a écrit qu'on peut répudier nos femmes? » Il dit vraiment, là, Dieu il est obligé de s'abaisser à votre niveau pour que Moïse vous écrive une lettre parce que vous n'êtes pas capable de marcher à un niveau supérieur comme Dieu avait créé. Comprenez-vous? Il dit, Dieu est obligé de s'abaisser, dire à Moïse, écris une lettre, puis ils pourront répudier les femmes. S'il arrive telle affaire, là, si on irait dans la loi, on verrait. Là. Mais Dieu il est obligé de baisser son standard parce que le monde endurcisse le cœur au lieu de croire qu'avec Dieu, Dieu va guérir, Dieu va prendre soin, on va faire un, ça va marcher. Comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. Il manque le meilleur. On va aller à 1 Samuel 8. Vous savez, des fois, on prie, puis on veut avoir de quoi, puis on pense qu'on sait ce qu'on a besoin. Combien de vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui le prient, « Tiens, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai besoin de ci, ça. » Puis le Seigneur, il est bien obligé de répondre, « C'est ça qu'on a demandé. » Amen. Voyez-vous ici au verset 1, ça dit, « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier fils se nommait Joël, le deuxième Abija, et ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Voyez-vous, Israël avait des juges en Israël. Mais là, ils veulent être comme le monde dans le monde. Ils disent, nous autres, tes fils, là, c'est pas le gros char, puis on a bien pensé à ça, puis on aimerait ça être comme eux autres. Ils ont des rois, eux autres aussi, on veut un roi. C'est ça qu'on veut. Bon, ils savent ce qu'ils veulent. Alors, verset 6, ça dit, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Voyez-vous, si le monde saurait, combien de fois vous avez lu que les gens s'élevaient contre Moïse, puis Dieu le prenait personnel, quand son frère Aaron, puis Marie se sont élevés à un moment donné contre Moïse, puis ont dit, pourquoi que Dieu ne parle rien qu'à Moïse, on est ses frères et ses sœurs, nous autres, il pourra nous parler à nous autres aussi. Dieu, il dit, quand il te rejette, il me rejette moi, là. Il ne faut pas oublier ça. Dieu le prend personnel, OK? Alors, Dieu, il dit, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Voyez-vous, même si ses fils n'étaient pas corrects, Dieu, il aurait pu dealer avec les fils, puis après ça, on en met d'autres à la place. Amen. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Parce que Dieu, il sait les rois qui règnent sur les autres nations, comment ils règnent. Puis il dit, fais-leur connaître la vérité. Autrement dit, essaye de les corriger pour voir si ça va fonctionner. Alors, au verset 10, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils, puis il les mettra sur des chars, puis parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières puis des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, puis les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, puis donnera ça à ses serviteurs. Puis il prendra vos serviteurs puis vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos meilleures ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi et vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Il dit, écoutez bien, là, vous voulez avoir ce que le monde a, on va vous le dire d'avance. Tu vas avoir que les rois comme dans le monde, comme toutes les autres nations, on va te dire ce qui va arriver. Puis Samuel, il parle de la part de Dieu. Il dit, voici ce qui va arriver. Vos fils, là, oubliez-les, ils vont tous travailler pour le roi, eux autres-là. Là. Puis vos filles, ils vont balayer la maison, puis ils vont faire la cuisine, puis ils vont se mettre du parfum, puis ils vont créer du parfum, ils vont faire toutes sortes d'affaires. Puis même vous autres, vous allez devenir des esclaves. Puis il dit, ça ne sera plus un pique-nique, là. Est-ce que vous voulez encore ça? Des fois, on dirait que tu le montres aux gens. C'est ça que tu veux, là. C'est vraiment ça que tu veux. Tu penses qu'en laissant le Seigneur, là, puis en t'approchant plus des choses du monde, puis en allant vers d'autres choses, ça va aller mieux. Des fois, tu expliques, mais les gens n'acceptent pas la correction. Ça dit au verset 19, « Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans votre ville. » Bon. Mais voyez-vous, Dieu, souvent, il va te donner ce que tu demandes, même s'il le sait que ce n'est pas le meilleur pour toi. Parce que Dieu est généreux. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu, si on lui demande, c'est ce qu'on veut, il va nous le donner. Mais si on accepte sa correction, sa guidance, on accepte sa parole, il y a quelque chose de bien meilleur pour nous autres. Mais là, eux autres sont prêts à obtenir le médiocre, le moins. Amen. S'abandonner à Dieu, se laisser corriger sans redire le coup, se soumettre à Dieu, on n'a aucune idée des grandes choses que Dieu peut faire dans notre vie. Moi, je me souviens encore, parce que ça a peut-être l'air banal pour vous autres, mais quand je vais dans la parole de Dieu, je vois des instances dans ma vie où ce que j'ai dû me corriger, je vois les choses aussi. Et puis, je me souviens, comme j'ai déjà dit, quand mon frère Fernand il est arrivé chez nous, puis c'est pas d'hier que Pasteur Réal et moi, on l'a aidé financièrement, OK? C'était pas d'hier, là. Moi, je me souviens, quand on était à sa base militaire au Nouveau-Brunswick, mon mari, il partait travailler, puis il avait prié avant de partir, puis là, un courant de Dieu au travail, il dit, appelle ton frère, il dit, je le sais qu'il a besoin d'argent, puis dis qu'on va y transférer 500$, on va le prendre sa marge de crédit ou sa carte de crédit, prends 500, envoie, il dit, c'est pas d'hier qu'on y en a donné pour l'aider. Amen? Amen? Amen. Sylvie, Huguette, disent Amen. Et puis, ça fait que là, l'Église est jeune. Bien, je veux dire, l'Église est jeune. L'Église, elle a peut-être 8-9 ans. Et puis, Pasteur Réal et moi, là, nos salaires, là, ceux sur le bien-être social faisaient plus que nous autres. Fait que ça vous donne une idée à peu près. Alors, dans ce temps-là, puis nous autres, on économise pour bâtir l'Église. On a toujours mis l'Église avant toute chose. Et puis là, il arrive chez nous, puis il y a quelqu'un qui vient de me donner 200$. 200 ou 250, quelque chose comme ça. Puis là, il arrive chez nous, puis on dirait toujours que s'il y a de l'argent, les oreilles arrivent. Puis là, il dit, ouais, j'aurais été voir ma fille en Ontario si j'aurais eu une coupe de sang. Moi, pour moi, on va dire que je ne prends pas une coupe de sang pour aller en Ontario, là. Mais c'est vrai qu'avec lui, c'est toujours le double et le triple. Fait que là, j'ai dit... Une coupe de sang. Bien, tu sais, il dit, elle s'est fait dire qu'elle avait le cancer des amygdales. Puis moi, mon cœur, là, il a commencé un petit peu à s'endurcir envers ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mon cœur, il a commencé à dire, là, ça fait des années qu'on y en donne. Puis à tous les fois qu'on a un petit peu, là, que moi, j'avais caché dans le fond de mon tiroir, je ne l'avais même pas montré à mon mari, j'étais assez fière. J'ai dit, si jamais je vais au magasin et je vois quelque chose à mon goût, je vais pouvoir me l'acheter pour une fois. Ah! Puis là, moi, j'avais commencé à m'endurcir. C'est comme, là, je suis tannée. Je suis tannée d'y en donner. Tannée. C'est tout, ça. Ça fait des années, là. Fait que là, il est là, il dit, oui, c'est ça, j'arrête à voir. Mais il dit, en tout cas, je le sais que, dans le fond, Debbie est là, puis tout ça, tu sais. Puis là, ça me dit en dedans de moi, va donc dans ta chambre, puis prends donc l'argent, puis donne-y donc. Fait que, bon... Mais voyez-vous, on m'a continué mon histoire. Ça fait que là, j'y ai donné. Au lieu de garder mon cœur endurci puis dire non, c'est à lui d'aller la quêter ailleurs, non. Puis m'endurcir le cœur, j'ai laissé mon cœur s'amollir. Mais là, lui, quand il est arrivé là-bas, vous savez toute l'histoire, la plupart de vous pourriez me la raconter. C'est qu'il est arrivé dans l'église, il avait emmené sa fille à l'église, puis le pasteur est en avant, puis le pasteur a dit, « Connaissez-vous une église qui est sur le bord de se construire ou qui est déjà construite puis qui ont besoin de bain? » Fait que là, mon frère, il se lève debout et il dit, « Tu viendras me voir après. » Ça fait que là, mon frère va le voir après, il dit, « Oui, j'en connais une église au Québec, qui sont sur le bord de se construire. » Ben, il dit, s'ils peuvent se louer une grosse trailer, là, les grosses vannes, et il dit qu'ils viennent telle date. Mon frère, là, il a pris des photos avec son téléphone. Là, il nous a envoyé ça. Et puis, là, il dit qu'ils viennent telle date, les chercher un dimanche matin. Ça l'a pris deux vannes pour amener les bancs sur lesquels vous êtes assis présentement. Ça vaut 45 000 $ ces bancs-là. On les a eus pour 200 piastres. Mon 200 piastres. Vous êtes assis sur mon argent. Ils sont bons, hein? Mais voyez-vous, c'est un exemple que je veux vous montrer que endurcir notre cœur, on ne sait pas ce qu'on pourrait manquer. Puis en plus, il nous avait dit de monter avec une vanne, mais il dit, ça va en prendre deux. Fait qu'il dit, ce qu'on va faire, il dit, notre église va en payer une, puis vous autres payez l'autre. Parce que ça prenait deux chauffeurs. Et puis, mon mari est monté avec Marc, celui qui s'occupe du son, dimanche matin. Puis, ils sont allés là un dimanche matin, puis après le service, tout le monde a sorti, les hommes sont tous restés, ils ont tous démonté les bains, ils rentraient ça dans les vannes, ils voulaient que ça sorte tout de suite. Parce que le lendemain, il arrachait le tapis, il reposait du nouveau tapis, puis le banc arrivait dans la même semaine. Fait qu'il fallait que ça sorte. Puis nous autres, on les a entreposés pour 4 500 $ pendant un an, puis après ça, on les a posés ici. Mais comprenez-vous quand je dis endurcir notre cœur? Il y a des fois, pas des fois, toujours. Si on s'habitue à endurcir notre cœur, puis dire, bien là, moi je pense que là, c'est trop. Bien là, telle chose. Puis on commence à endurcir notre cœur, on ne sait pas des fois la coupure de la bénédiction qui pourrait se passer si on fait juste ouvrir notre cœur puis s'empêcher de l'endurcir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai accepté de le bénir, j'ai accepté de ne pas être offensé, j'ai accepté toutes ces choses-là, puis voici la bénédiction qui existe maintenant. Amen. On va aller à Marc 16. Tantôt, on avait lu dans Marc 6, les apôtres qui s'endurcissaient. Après ça, dans Marc 8 aussi. Puis dans Marc 16, on va sûrement terminer avec ces versets-là. Jésus est ressuscité, puis il y a des femmes qui l'ont vu. On va commencer au verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils l'entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils l'ont pas cru. Bon. Ils ont de la misère à croire au miracle. On a lu Marc 6, Marc 8, Là, on est rendu à Marc 16. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux autres, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Voyez-vous, les apôtres, ils se sont tellement habitués de s'endurcir. Pourtant, Jésus leur avait dit, dans 3 jours, je vais revenir. Ils sont endurcis. Le monde dit, aïe, on l'a vu. Ah, voyons donc. D'autres y arrivent et disent, on l'a vu. Non. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Jésus les a reprochés. Puis pourquoi Jésus les a reproché la dureté de leur cœur? Puis Jésus le reprocha à chaque fois. C'est parce que Jésus sait que si ça ne change pas, ils réussiront jamais à produire eux-mêmes les miracles qu'ils devront produire quand lui ne sera plus là. Jésus dit, vous le saviez. J'étais avec vous, je vous l'ai dit que je ressusciterai, puis qu'après ça, j'intercéderai auprès du Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Je vous ai tout averti de qu'est-ce qui s'en venait. Ces femmes-là m'ont vu, ils sont allés vous voir, vous ne l'avez pas cru. J'ai apparu à 2 autres en chemin, ils sont allés vous le dire, vous ne l'avez pas cru. C'est quoi votre problème? Ils leur reprochent la dureté de leur cœur. Puis il a raison, parce que quand on a déjà lu que quelqu'un qui endurcit son cœur, il n'y aura plus de remède à un moment donné. À un moment donné, Dieu, il va produire les miracles, puis ils n'y croiront pas non plus. Ils ont de la misère à croire les choses que Jésus faisait. Vous pensez qu'ils étaient bourrés de foi, eux autres-là, hein? Ils ont de la misère à croire aux miracles. Ça a l'air trop vrai pour être vrai, là, tu sais. Dieu sait que c'est important pour nous d'accepter de se corriger. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut de plus en plus s'ouvrir à qui est Jésus. Combien grandiose est Dieu! Si on ne met pas nos yeux dans la parole de Dieu pour regarder les miracles qu'il faisait, puis on ne s'ouvre pas à que c'est possible de les voir aujourd'hui, bon, on fait exactement comme eux, on endurcit notre cœur. Puis à un moment donné, il y aura un vrai miracle qui se passe. Combien de fois j'ai déjà parlé à des gens, puis j'ai dit, c'est vrai, là, dans les voyages missionnaires de John et Martine, il y a telle chose qui s'est passée. Il y a des gouailles qui ont disparu comme ça, à prier sur les gens. Puis le monde, ben là, bon, ça c'est dans ces pays-là, puis qui dit que c'était pas parce qu'elle avait avalé sa gomme, tu sais, puis, elle a oublié de la mâcher avant, tu sais. Ça a fait, non, mais tu sais, ta caillette. Puis le monde a de la misère à croire, amen. Faut être vite à se corriger. Puis je veux juste vous montrer comment, dans un sens, quand Dieu le parlait, il se corrigeait. Amen. Parce que finalement, ils sont allés attendre. Amen. La puissance. Puis ils ont décidé de dire, écoute, je pense que le Seigneur nous l'a assez dit, là, de faire attention, de ne pas s'endurcir le cœur. Mais on va juste finir avec 2 Écritures, Jean 13. Et puis vous vous souvenez de Pierre. Je vais lire à partir du verset 5. Ça dit, « Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » « Ah, bien d'abord, je vais prendre mon bain. » Bien, c'est ça qu'il dit. Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains, la tête, en vrai, donne-moi une douche, ça presse. » Il était prêt, comprenez-vous, il était rapide à se corriger. Oui, ça peut arriver que des fois on est incrédule ou on doute. Mais si on est rapide à se corriger, puis dire, ah, c'est sûr qu'on n'en voit pas souvent des miracles de même de nos jours, mais si tu le dis, moi le croire. S'habituer à croire, puis à se corriger. Puis l'apôtre Paul, la même chose, acte 23. Acte 23. Et puis l'apôtre Paul est après donné son témoignage. Attendez un petit peu. Et au verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui, près de Paul, de le frapper sur la bouche. Alors Paul dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. » Paul, c'est un homme qui avait du caractère. Moi, j'aime ça. Amen. J'aime ça qu'il s'aille un homme, pas une mauviette. Amen. Il reçoit une tape sur la bouche, il dit, « Dieu va te frapper, muraille blanchie. » Il dit, « Tu es assis pour me juger selon la loi, puis tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Tout de suite, Paul dit, « Oh, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Voyez-vous comment il était facile à se corriger? Le monde, il pense là, que tous les apôtres, quand ils sont venus au Seigneur, ils ont tout changé, sont devenus des moutons. Paul, c'est un homme avant ça qui respirait le meurtre. Il vit encore dans son corps. Puis des fois, ça sort. Des fois, les morts veulent ressusciter. Même si on est mort en Christ, puis vivant avec Jésus, des fois, ça veut ressusciter. Puis là, quand il s'est fait frapper, il n'a pas aimé ça. Puis il a dit, « Toi, là, Dieu va t'avoir, mon petit véreux. » Et puis, l'autre, il a dit, « Tu insultes. » Mais parce qu'il n'avait pas le droit de le frapper sur la bouche. Vraiment, il avait violé la loi. Il n'avait pas le droit. Fait que c'est sûr que c'est choquant. Quand quelqu'un n'a pas le droit de faire de quoi, puis il le fait. Mais il ne savait pas que celui qui avait violé la loi, c'était le souverain sacrificateur. Puis Paul, lui, savait que tu parles pas mal du souverain sacrificateur. Fait qu'il s'en fout que lui ait violé la loi. Ça, c'est son problème. Maintenant, il dit, « Ah, je m'excuse, parce que c'est dit dans la loi, tu ne parleras pas mal de ton souverain sacrificateur. » Amen. Ce que je voulais vraiment mettre dans votre cœur ce soir, c'est d'être facile à vous corriger. Amen. Puis des fois, ceux qui nous corrigent, c'est pas toujours une personne qui arrive ici, comme si, supposons, Marie-France Varello arriverait ici, ou pasteur Marc Brazy, puis il dirait vraiment, tu dois corriger telle chose dans ta vie. Tu vas quasiment dire, oh oui, il y a un homme, un grand de Dieu qui vient de me parler. Des fois, c'est ton mari. Oh mon chéri! Des fois, les corrections qui nous viennent, c'est pas toujours rien que Dieu qui nous parle dans notre cœur, comme qu'il avait fait avec moi quand il a dit « Va donc, au lieu de dire leur, arrête donc de faire la tête dure, va donc chercher ton argent puis donne-les donc. » Ce que vraiment Dieu m'avait dit, c'est « Si toi, ta fille serait malade aux États-Unis, t'aimerais-tu que quelqu'un te paierait un billet d'avion pour y aller? Fais-le donc pour lui. » Alors, parce que moi, toute la parole de Dieu, c'est toujours semer puis récolter, hein? Fait que Dieu, il m'a eu avec ça. Fait que j'ai vraiment dit, OK, Seigneur, au lieu d'endurcir mon cœur, je vais continuer, je vais le prendre comme une semence. Petit, que, très peu que je savais que je récolterais tout ce que j'ai récolté. Amen. Amen. Être facile à corriger, ça nous aide à ne pas endurcir notre cœur. Amen. On va se lever debout. Oh, gloire à Dieu, j'espère que ça vous a éclairé ce soir. Amen. En tout cas, moi, ça m'éclaire. Gloire à Dieu. Là, mon mari va arriver chez nous puis il va me corriger sur sa casette.
Eh oui!
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Ah, c'est moi qui vais te corriger. Gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on n'a pas fini de voir toutes les choses grandioses qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on travaille sur notre cœur. La parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. S'il y a une chose que Dieu regarde, c'est au cœur. Quand ils ont choisi David, Dieu lui a dit « L'homme, lui, il regarde à l'apparence, mais il dit « Moi, je regarde au cœur. » Alors, je vais prier ce soir pour que, peu importe ce qu'on fait faire face au, durant la semaine, que si, en quelque part, Dieu nous montre des petites choses qu'on devrait corriger pour empêcher que notre cœur s'endurcisse, combien de vous êtes d'accord avec moi que vous voulez qu'il vous le dise? Amen. Fait que c'est ça qu'on va prier ce soir. Père éternel, dans le nom de Jésus, chacun de nous ce soir, nous sommes conscients de l'importance, Seigneur, d'avoir toujours un cœur qui est corrigé, qui est corrigeable. Un cœur, Père éternel, qu'on ne veut pas personne l'endurcir, Seigneur. On veut profiter, Seigneur, de tout ce que tu as pour nous. Et on veut que tu puisses travailler au travers de nous avec un cœur toujours flexible. Alors ce soir, chacun de nous, Seigneur, on s'abandonne à toi. Et Père éternel, je parle pour tous les gens ici ce soir que si dans les jours à venir, les semaines à venir, il y a des choses que tu t'aperçois dans nos vies, Seigneur, qu'on devrait améliorer, et ce sont des choses qui vraiment auraient endurci notre cœur si on persiste. Père éternel, je te demande de nous le montrer, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur, faire comme Pierre ou faire comme Paul, se rétracter tout de suite puis dire, « Seigneur, non, envoie, change, change-moi, Seigneur. » Parce qu'on veut, Seigneur, être utilisé de toi pour toujours. Au nom de Jésus, puis tout le monde dit, « Amen ».